Bien, il est temps de débattre. Il y a de la matière entre les deux interventions qu'on a eues. On a bien vu que toutes les dimensions doivent être abordées, qu'il faut aller bien sûr au-delà de l'évaluation et que quelque part, faire de la prévention, c'est être un agent de transformation. Alors pour cela, est-ce que une formation ne s'impose-t-elle pas? Comment? Je prends l'exemple de la Finlande, par exemple, qui a formé 100 000 intervenants potentiels et où le taux de suicide a diminué. Est-ce qu'on est dans cette logique en France?
Alors, la formation est intéressante, mais moi qui ai beaucoup formé, il y a des gens qui ne l'appliquent pas du tout. Donc, la formation seule n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait des compléments, qui s'appellent l'évaluation des pratiques professionnelles. Est-ce que les 10 derniers arrivants à la maison d'arrêt qui est à côté ont été évalués selon ce que l'on veut faire? J'ai vu des hôpitaux, mon propre service, où je fais des formations. Je suis un peu comme dans la Royale, vous savez, tout ce qui bouge, je le salue, tout ce qui ne bouge pas, je le peins pour pas que ça rouille. Moi, tout ce qui bouge, je le forme. Et vous avez beau former, les gens, c'est souvent une détection passive. Ah, il nous a dit qu'il n'allait pas bien, qu'il allait peut-être se suicider. Mais aller chercher les champignons, les gens le font peu. Donc c'est vraiment une vigilance de ne pas trop former, mais surtout de vérifier que les personnes formées appliquent les choses. Pour moi, c'est important qu'il y ait une pression préventive douce, mais constante, moi j'appelle ça le MPTM, mettre la pression pendant 3 mois, pour que les gens appliquent la formation. Mais sans pression, on ne fait pas de bon café. Et sans de pression à la pratique, on ne fait pas de bonne prévention. Parce que la tendance, c'est d'abandonner. Oui, j'étais formé. Mais vous posez la question, oui, oh, je dis idée noire. Mais je dis noire, ça n'a pas de sens, idée noire. Dans la vallée du Gier, c'est broger. Broger, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Hein? Et on est perdu. Un de mes patients me dit, moi j'ai des idées noires. Mais j'ai mis lesquelles? Il me dit, mais c'est les envies de tuer, bien sûr. Et vous pensez à tuer qui? Bah, vous, docteur, rassurez-vous, je ne vais pas tuer les autres. Hein? Donc le mot idée noire n'est pas professionnel. C'est est-ce que par moment vous souffrez au point de mettre fin à vos jours? C'est humainement possible. J'aime pas le mot suicide qui est trop de syllabes, trop de lettres. Hein? C'est plus écologique. Mettre fin à vos jours, c'est ça. Hein? Il faut y aller. Oui. Mais l'évaluation des pratiques professionnelles, ensuite on va faire des organisations. Mais d'abord, l'évaluation des pratiques professionnelles. Les gens n'appliquent pas. Hein. Les gens n'appliquent pas, c'est triste. Hein.
Puis je pense aussi qu'il y a l'idée du réseau. C'est-à-dire que quand je fais des formations, je crois qu'il faut intégrer la formation ne pas que la formation soit trop distante, mais prendre le temps d'analyser comment fonctionnent les différentes structures, de voir à qui on peut avoir recours. Parce que si quelque part vous êtes formé, vous avez repéré, mais vous ne savez pas à qui adresser, et à ce moment-là, vous risquez vous-même d'être en souffrance parce que vous avez pris sur vos épaules ce que vous avez repéré, mais vous ne savez pas à qui relayer. Donc finalement, je crois qu'il faudrait presque, ce que j'essaie de faire quand je fais des formations, c'est d'avoir un petit temps à la fin, mais oui, maintenant, comment vous construisez votre réseau? À qui ça sera facile d'en parler? Certains médecins généralistes, certains psychologues, certains psychiatres. Donc l'idée de dire que la formation doit être adaptée à la structure, qu'on doit comprendre comment ça fonctionne là où vous êtes. Donc toujours penser formation, mais construire le réseau. Je dirais, pour moi, ça serait la dernière partie de la formation, qu'on prenne le temps de penser la construction de ce réseau. Ça me paraît vraiment essentiel.
Allez, vous avez des questions? Alors, moi, j'en ai une.
Oui, madame.
Je préfère que la personne parle, bien sûr.
Alors, moi, je suis payé pour protéger les autres, pas pour me protéger. Un bon patient, c'est d'abord le numéro un. Ce n'est pas moi le numéro un. Et plus mon travail, je sais ce que je veux faire. Je ne suis pas empêché de faire mon travail. Plus je suis heureux professionnellement. Hein? Donc j'ai un sentiment d'efficacité personnelle. Mais je vais plutôt être gêné par les patients qui ne m'aident pas à les aider. Quand une personne vient me voir, elle me dit, monsieur, c'est simple, qu'est-ce qui vous amène? Il me dit, c'est simple, je vais me pendre. Je lui dis, merci. Merci parce que vous m'aidez à vous aider. Et on ne va pas prendre beaucoup de temps, parce qu'avec vous, c'est clair, c'est simple. Ce qui va me gêner, où j'aurais besoin d'un petit soutien psychologique, vous faites de la supervision, madame? Non. Vous pourriez. C'est la personne qui dit, docteur, votre traitement, il ne marche pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas, le traitement? Mais il ne marche pas, votre traitement. Madame, est-ce que seulement vous l'avez acheté? Ah ben, bien sûr que non. Alors là, j'ai besoin d'être aidé. Mais quand, moi, je suis payé pour aller au port des ténèbres, au cœur de la souffrance, et surtout d'avoir des mots, beaucoup de mots pour nommer ça. La perte d'espoir, l'impuissance à penser, à dire, à faire, à comprendre, d'être harcelé, piégé, ça ne s'arrêtera jamais, écrasé. Avoir des mots, ça vous libère de beaucoup de choses. Donc c'est la langue française, c'est du Guy Lemaître, non, pas Guy Lemaître, Pierre Lemaître. Lisez Pierre Lemaître, Parole d'en haut, ça vous donne des mots. On ne parlait pas beaucoup à l'autre, on regardait beaucoup ses yeux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mâchoire. C'est intéressant, ça. Donc, qu'on ait des mots aux portes de l'extrême. Ensuite, qu'on ait des problèmes d'organisation, des choses comme ça. Mais moi, mon plaisir, c'est d'aider et d'être efficace. J'aime ce qui marche. Je suis désolé de le dire. Je veux dire, il faut penser le sens de... Non, moi, j'aime ce qui marche. Et c'est les patients qui vous le disent. Vous ne seriez pas passé dans ma chambre. Si une infirmière me disait, trois jours avant, ce soir-là, je n'aurais plus été là. C'est les petites attentions à un grand nombre, on en parlait. Vaut mieux des petites actions à un grand nombre. Mais non, ça va. Ça va.
Et puis, je pense qu'en permanence, on l'a bien vu, on a des outils qui sont bons, qui nous permettent de nous... Ce que j'aime bien, c'est s'autoriser à se penser compétent parce qu'on a peur de ne pas l'être. Donc ça, c'est un truc important. Et puis moi, côté ça, je crois que c'est être en permanence en réflexivité, donc en réflexion sur sa propre pratique, parce que, j'ai envie de dire, les patients nous surprennent en permanence. On n'a pas la solution. Il y a un exemple que j'avais pensé vous donner maintenant. J'ai été appelé... un monsieur qui est venu dans mon cabinet... soigner le monsieur et madame, et pour la première fois il n'était pas si mal que ça. Il était dans une demande très instrumentale parce que madame venait de quitter. Ils avaient quatre enfants, donc deux de madame, un de lui et un en commun, et sa demande est instrumentale: je veux que vous m'aidiez à ce qu'elle revienne. Première fois, ça se passe bien. Et puis, je l'accompagne, je l'écoute, je pose, je demande la question. C'est là, il me dit que non, ça va, ça va pas si mal que ça. Et puis, une semaine après, j'ai son épouse qui me téléphone en disant « Il n'est pas bien, il a parlé de suicide. » Et il revient. Et là, je n'ai plus du tout la même personne. Alors, on parle de l'intérêt du smartphone, mais alors là, j'avais quelqu'un. Imaginez la consultation. Alors, ce qui s'était passé, c'est qu'il était parti, mais qu'il avait récupéré trois enfants entre-temps. Donc, avant, ça gérait bien, parce qu'il avait quatre enfants chez lui. Il n'en avait plus qu'un, le sien. Et il regardait son smartphone. Il regardait que ça. Et la même demande instrumentale, « Aidez-moi à récupérer, madame. » Et moi, j'avais beau rentrer, j'avais beau... Le mur total. Et en plus, ce qui était d'autant plus angoissant et stressant, c'est que c'était en mai. Et en mai, il y avait la fête des pères qui était juste devant dans 5 jours. Vous voyez les dates symboliques. Et il avait dit à ses propres parents qu'il voulait faire un voyage en emmenant sa dernière petite fille. Donc moi, j'avais non seulement peur de suicide pour lui-même, mais qu'il emmène sa fille. Et puis, alors là, qu'est-ce que je fais? Parce que je parle de suicide, mais non, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est la réflexion permanente sur sa pratique. Et... l'envoyer aux urgences, c'était pas question, il faisait tout, puisque de toute façon, il ne suivait pas de suicidant, il n'était pas suicidaire, donc il ne voulait pas y aller, même si c'était évident. Et alors là, je me suis vraiment creusé la cervelle, et là, j'avais la chance d'avoir en lien avec l'épouse. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à l'épouse le numéro de téléphone des parents, j'ai appelé les parents, j'ai expliqué la situation, et j'ai organisé une garde. Et ça veut dire que pendant tout le week-end, il a été gardé par ses parents. Après, on a été plus loin, il n'a jamais fait tentative de suicide, mais sur le moment, je ne pouvais pas le savoir. Donc, c'est l'idée de s'autoriser à se penser compétent et de se dire, en permanence, on analyse la pratique et que les patients nous surprennent toujours, toujours. Donc, d'être là, de regarder, d'observer, et de trouver à chaque fois la solution qui permet de passer le cap, d'aller un peu plus loin, et après, travailler en profondeur, parce qu'au moment où vous êtes dans la crise, c'est passer le cap qu'il faut.
Une question, là. Non ?
Je m'interroge sur les conduites suicidaires. Donc, j'entends par là les gens qui un peu tout le temps conduisent n'importe comment en jouant avec leur vie en réalité. Donc ça rentre pas trop dans ce que vous avez décrit là, dans le processus suicidaire, où il n'y a pas un quand, il n'y a pas on arrive au bout, et là aujourd'hui je vais vraiment passer à l'acte, mais c'est un peu tout le temps, hein, peut-être ça marchera, peut-être ça ne marchera pas, voilà.
Le mot conduite suicidaire doit être banni de notre vocabulaire parce qu'il ne veut rien dire. Hein, c'est des recommandations internationales, parce que le suicide, c'est mettre fin à ses souffrances dans les minutes qui viennent. Donc l'amour, la chasse à cour, l'acrobatie, l'alpinisme de haute volée ne sont pas c'est pas du suicide. Hein. Ça peut être des conduites à risque, des conduites de risque. Vous avez d'abord David Le Breton, d'ailleurs à Strasbourg, qui connaît bien le sujet. Mais on ne peut pas mettre conduite suicidaire. Fumer ou aimer n'est pas une conduite suicidaire. La grève de la faim n'est pas une conduite suicidaire, loin de là. C'est se mettre en danger pour exister, mais on ne meurt pas en 3 jours d'une grève de la faim. Donc il n'est pas prudent d'utiliser ce mot suicidaire, surtout comme font les jeunes, je suis suicidaire, à 4 ans ils en parlent, à 5 ans ils en parlent, maintenant, hein. 4-5 ans. On doit être très pur sur le vocabulaire et le garder pour les personnes en crise suicidaire, donc qui ont des idées ou une intention ou une programmation, voire un début de mise en œuvre.
Alors, est-ce que des conduites à risque comme ça sont des facteurs de risque sur... sur un processus suicidaire en marche ou pas ?
C'est un facteur de risque, mais en général, les personnes dont la vie, le fil conducteur a été la conduite à risque ou la conduite de risque, quand ils passent au suicide, se calment et s'apaisent terriblement, de façon très trompeuse, et on dit, mais voilà, ils se sont rangés, ils sont beaucoup plus calmes, ils ne provoquent plus, ils ne s'automutilent plus, ils ne font plus ci, ils n'y font plus ça, ils vont mieux. Et les gens vont mieux quelquefois parce qu'ils arrêtent tout. Donc attention aux automutilateurs et aux conduites de risque qui se calment de façon non compréhensible.
Allez-y.
Bonjour. Moi, j'avais une question donc, qui rejoint un petit peu ce que vous disiez par rapport à l'entourage. Quand on vit avec une personne donc, qui ne va pas bien depuis longtemps... qu'on essaye de qu'il y a un protocole, qu'il va voir des médecins, etc., et qu'on voit que les choses s'arrangent pas, voire enfin toute la famille peut être arrivée à un stade d'épuisement. C'est très difficile à vivre, et je voulais voir un petit peu ce qui pouvait être mis en place, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place parfois. La famille peut se sentir mise à l'écart, la personne qui va mal voit le médecin. Il y a des choses qui se mettent en place, mais il revient à la maison et c'est toujours pareil, il va continuer à se coucher ou à se lever et être un petit peu excité. Enfin, voir qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour que l'entourage puisse comprendre ce qui se passe aussi et ne pas être mis à l'écart de tout ça et essayer de pouvoir aider au mieux la personne avec qui on vit, quoi. Et éviter cet épuisement qui est quand même pas simple et qui n'est aidant, je pense, pour personne.
Alors, dans une crise suicidaire, il faut aider, j'ai mis dans mon diaporama, il faut aider vraiment les gens qui soutiennent. Parce que c'est proprement épuisant d'avoir quelqu'un de suicidaire à la maison, 24 heures, 36 heures, 48 heures. Quand vous parlez de situation chronique, c'est-à-dire qui dure plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est un...
Pas forcément quelqu'un qui a verbalisé qu'il allait se suicider, hein. Enfin, quelqu'un qui va mal, qui ne va pas bien, qui ne vit plus, qui va pas bien et qui souffre.
Ben disons que le fardeau de la maladie mentale, enfin, le mot, on peut encore le dire, hein, est considérable pour l'entourage. Hein. On dit que la dépression, c'est une façon gentille d'être méchant, parce que ça pèse sur les autres. Hein. Rien ne satisfait, il faut du calme, il ne faut pas que les enfants s'éloignent, il ne faut pas qu'il y ait de bruit, il ne faut pas qu'il y ait de projet, il ne faut pas les bousculer, il ne faut pas stimuler, il ne faut pas faire ci. Donc c'est une forme de paralysie, hein, de musée Grévin. Hein. Donc c'est important pour les gens qui sont en personne de bien distinguer la maladie, ce qui est bon pour la personne, et puis que la vie reprenne dans cette maison, de reconquérir des mètres carrés. Hein, c'est-à-dire la liberté de penser, d'aimer, d'avoir des projets, et de ne pas être paralysé par la maladie. Il ne faut pas que dans les maisons, la maladie soit le tyran. Hein, c'est important que la vie reprenne le pouvoir. Parce que quelquefois on voit que toute la maladie vraiment va dominer la maison. Il ne faut pas parler, il ne faut pas le gêner, il ne faut pas ceci, tu sais, et ça paralyse tout le monde. Donc nous, on intervient beaucoup pour des gens qui ne veulent pas se soigner à domicile, Et les premières étapes, c'est d'abord reconquérir des mètres carrés de pouvoir et d'autorité. On a le droit de recevoir, les enfants ont le droit de recevoir des amis. On a le droit de mettre la télé, on a le droit de dire des choses comme ça. Donc la maladie ne vient pas tout. Mais c'est un fardeau et c'est important aussi de se faire aider quand on a, et d'avoir alors, il y a la réhabilitation, la psychoéducation, l'information des familles. Il y a l'UNAFAM, il y a France Dépression, il y a des associations pour aider. Parce qu'il y a des façons d'être et des façons qui sont très utiles et d'autres moins utiles.
Mais c'est vrai que quand on prend en charge quelqu'un comme ça, avoir en tête de pouvoir aussi demander à l'entourage comment vous allez, est-ce que vous avez... Est-ce que vous savez qu'il y existe des structures, voilà, qui est tout ça qui soit abordé, parce que ce n'est pas toujours le cas, en fait.
Alors, je ne poserai pas la question comme ça, comment vous allez, parce que je pense que c'est une question qui n'est pas... J'imagine que par moments, c'est extrêmement difficile.
Il y a aussi...
Voilà, les gens vont dire éventuellement, pas tant que ça, ou par moments, voilà. Mais comment vous allez je me méfie de cette question, oui. Vous connaissez l'origine d'ailleurs de la question, comment vous allez? Non, c'est Louis XIV. Hein.
Vieille histoire. Oui.
Il y a aussi, je ne sais pas si développer la clinique des aidants. Alors, je ne sais pas si ça existe, les ateliers des aidants dans les Vosges. Donc, je sais qu'on développe pas mal parce qu'effectivement, on va considérer, enfin, en tout cas, moi, je pense un peu déjà aux patients Alzheimer, je pense que des fois, c'est l'aidant qui devient un peu plus la personne sur laquelle on doit se focaliser. Et puis, il y a aussi ce qu'on n'a pas beaucoup approché, la démarche systémique. C'est-à-dire que j'aime bien l'idée, parce que si on focalise trop sur la personne en tant que personne, on oublie que ce n'est pas uniquement la personne qui souffre, mais c'est le groupe familial qui souffre. Et donc, moi, j'ai vu de plus en plus se développer. Je connais un peu le groupe Eric à Plaisir, qui est une équipe d'intervention mobile, et ils sont formés à la systémie, et donc ils s'intéressent au groupe dans sa globalité. Et des fois, ce n'est pas forcément celui qui souffre le plus, qui est un peu le symptôme de la famille sur lequel il faut... qui va avoir besoin de psychothérapie, mais des fois, c'est d'autres personnes. J'ai un exemple d'une jeune fille où on a été appelé à domicile, elle menaçait de se suicider, c'était pas très clair, il y a eu un conflit, une histoire de télé, où ses deux frères et sœurs regardaient la télé, étaient venus devant, et elle les avait empêchés de voir, il y avait un conflit, elle menaçait de se suicider, ou les tuer, enfin, c'était pas très clair, et là, on débarque avec l'infirmier, le psychiatre, à minuit, et on arrive, et c'était le procès. C'est-à-dire qu'il faut imaginer la salle, il y avait les deux parents, les deux enfants les plus jeunes d'un côté, la jeune fille de l'autre, et elle était insupportable, et en gros, c'était « elle va pas bien », il y avait même une phrase qui était extrêmement forte, en disant « son petit ami va la quitter, elle va pas bien, mais c'est de sa faute, parce que son petit ami l'a quitté, parce que elle est insupportable ». Et les parents qui tenaient un discours complètement ambivalent au niveau de l'autonomie, c'est-à-dire que en plus elle va pas bien parce qu'elle commence une école et après, 3 mois après, elle la termine, donc c'est profondément insupportable pour eux, il faut qu'elle devienne autonome. Mais là où il y a le paradoxe, c'est quand la jeune fille faisait de l'autostop, ou utilisait trop son téléphone portable, là les parents n'étaient absolument pas d'accord. Donc il fallait qu'elle soit autonome comme eux pensaient qu'elle devait être autonome, mais pas comme elle voulait être autonome. Et là, il y a un concept psychologique que j'aime bien, c'est l'autonomie contrôlée. C'est que tu dois être autonome comme moi, j'ai décidé que tu devais l'être. Ce qui est une impossibilité, une injonction totalement paradoxale. Et là, il y a eu l'équipe qui est intervenue, elle a été hospitalisée parce que le risque était vraiment fort. Mais finalement, au bout du compte, elle va nettement mieux, mais c'est les parents qui ont fait une psychothérapie, et pas la jeune fille. Donc moi, je pensais effectivement, approche systémique, penser que quelqu'un qui souffre dans une famille, c'est peut-être l'élément qui manque, mais ça ne veut pas dire que le reste de la famille ne souffre pas. Donc je trouve ne pas se focaliser uniquement sur la personne, ça évite de stigmatiser. Ça, je pense, c'est très important. C'est le groupe qui ne va pas bien quand ça concerne la famille.